Les séminaires du Collège de France.
Donc oui, on va les regarder donc dans les livres des chroniques ou dans le livre des chroniques pour voir quelle présentation et quelle légitimation il est fait du roi David. Et vous allez vite vous apercevoir que c'est de fait assez différent de ce que l'on a dans les livres de Samuel. Alors, les chroniques, le titre des livres, c'est plutôt en hébreu « Parole des jours », ou après on va jusqu'à dire les annales. Dans la Septante, dans la Bible en grec, ça a un nom un peu différent puisque ça s'appelle le livre des choses omises. Et puis, Saint Jérôme, dans son commentaire en latin, va l'appeler Chronicon Tossius Divinae Historiae, ce qui va devenir donc chronique de toute l'histoire divine. Et puis, vous voyez donc que c'est ça qui a donné le nom en français des livres des chroniques. Alors, dans le codex de Leningrad, le plus grand codex que l'on ait, enfin le plus grand, je ne sais pas si c'est le plus grand, mais le codex le plus complet de la Bible hébraïque, le livre des chroniques vient en dernière place, c'est-à-dire dans le dernier corpus de la Bible hébraïque ou Ancien Testament, les écrits, les Ketuvim, et il est placé donc en tout dernier. Mais dans certains manuscrits espagnols, le livre il est placé en premier, dans le corpus des Ketuvim, des écrits, donc il y a une petite différence de place selon les manuscrits. Alors pourquoi est-ce qu'il a pu être placé en premier dans les Ketuvim? Pas parce que ça précède les psaumes, et comme vous allez le voir, il y a bonne place qui est faite au culte dans les livres des chroniques, et donc ça introduisait bien finalement le psautier. Par contre, quand il est mis à la fin, comme c'est le cas dans le codex de Leningrad, eh bien on peut se dire que c'est probablement afin de conclure toute la Bible hébraïque, ou l'Ancien Testament donc, avec l'appel du roi perse à remonter à Jérusalem, ce qui ouvre finalement une ouverture vers l'avenir, puisque, comme vous le voyez à l'écran, on peut lire dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 36, verset 23, « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, tous les royaumes de la terre, le Seigneur, le Dieu des cieux, me les a donnés, et il m'a chargé lui-même de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Lequel d'entre vous provient de tout son peuple? Que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. » Voilà, donc ça ouvre sur une suite, on pourrait dire, sur un avenir. Donc ça, c'est juste pour situer un peu les livres des chroniques. Ce qu'on peut dire encore, c'est qu'à l'instar des livres d'Esdras et de Néhémie, eh bien, les chroniques formait à l'origine un seul rouleau, et que la division en deux parties, elle est apparue pour la première fois dans la Septante, donc dans la traduction en grec, et puis ensuite elle est entrée donc dans les manuscrits hébreux médiévaux. En fait, quand on regarde ce que ces livres racontent, ils ont plutôt une division tripartite, si on peut dire les choses comme ça, puisque il y a d'abord une vaste généalogie qui retrace l'histoire depuis Adam jusqu'à David. Puis, il est question des règnes de David et de Salomon, les deux étant extrêmement liés. Et puis, enfin, il y a le récit des rois de Juda, jusque donc à l'exil à Babylone, et puis l'arrivée du roi perse, dont on vient à l'instant de parler. Alors, contrairement au livre des rois, les chroniques ne disent rien des rois du Nord. Ils s'intéressent au roi de Juda uniquement, donc ça, c'est une... Voilà, c'est une caractéristique dont il faudra tirer quelques conclusions. Et donc, il retrace l'histoire de la royauté, mais comme on va le voir, avec une perspective qui est donc, je vous le disais, assez différente de celle que l'on rencontre dans les livres de Samuel et des rois. Et d'emblée, on peut le dire, c'est à cause du rôle qu'il donne au culte et à la liturgie. Ça veut dire qu'au fond, on a deux traditions historiographiques dans la Bible hébraïque qui concernent les mêmes événements, mais qui présentent des perspectives assez différentes. Alors, peut-être pour avancer un peu dans la présentation des livres ou du livre des chroniques, dire quelques caractéristiques. Vous disiez, c'est une vaste œuvre historiographique depuis l'origine donc jusque à la domination babylonienne, puis à l'arrivée des Perses. On pourrait dire depuis les origines jusqu'à la chute du temple. Et en fait, les 9 premiers chapitres qui donc font l'histoire depuis Adam donc qui remonte aux origines. C'est une sorte d'introduction qui pose des fondamentaux, qui pose les questions importantes. C'est-à-dire, ça répond à des questions. Quel est le peuple dont on va retracer l'histoire? Où est-ce que ce peuple est établi? Dans quel contexte historique est-ce qu'il s'inscrit? Bref, ça pose des jalons pour la suite de l'histoire. Et puis, du premier livre des Chroniques, chapitre 10, au deuxième livre des Chroniques, chapitre 9, donc le récit se concentre sur David et Salomon. Et ça, c'est une période qui est envisagée comme une période unique. Ils sont vraiment unis l'un à l'autre, leur histoire est unie l'une à l'autre. C'est la section la plus développée du livre. Donc, ce sont les personnages qui ont le plus de place dans le livre des Chroniques. Et puis ensuite, donc, de 2 Chroniques 10 à 2 Chroniques 36, on a l'histoire du peuple sous le règne des rois de Juda. Alors, ça va depuis la révolte des tribus du Nord, donc jusqu'à la chute de Jérusalem, puis l'annonce du décret de Cyrus que l'on a lu tout à l'heure. Enfin, à l'instant, il y a 2 minutes. Ce qu'on peut dire encore, peut-être pour caractériser le livre, c'est que si l'historiographie de Deutéronomiste, dont on a la trace dans Samuel et Roi, est construite en référence à l'Exode, en fait, et ça c'est très étonnant, les livres des Chroniques occultent cet événement fondateur, qu'est l'Exode. Ça veut dire que quand il est question de l'Exode dans les livres des Chroniques, c'est uniquement ou quasi uniquement comme un repère historique du passé. Alors c'est le cas dans plusieurs chapitres, en 1 Chronique 17 ou en 2 Chroniques 5, en 2 Chroniques 7 ou 20. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que ces allusions à l'Exode, elles s'inscrivent dans la thématique principale des Chroniques, qui est la mise en évidence, la mise en lumière du lieu choisi. Et le lieu choisi, évidemment, c'est Jérusalem et le Temple, et d'une dynastie, la dynastie davidique et la dynastie élue. Et au fond, toute l'histoire va être relue au travers de cette double thématique, le choix de Sion, le choix de David, avec une théologie qui a souvent été qualifiée une théologie de la rétribution immédiate, ce que, à mon avis, on peut discuter, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, ça nous écarterait trop du sujet. Dans 4 récits qui sont centrés sur le Temple, en fait, il est pas du tout question de la référence à l'Exode. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que le premier de ces récits, c'est donc le chapitre 16 du premier livre des Chroniques, met en scène une sorte de liturgie psalmique, donc avec des psaumes, qui accompagne l'installation de l'Arche à Jérusalem. L'Arche dont on vient à peine de parler, là, elle n'est pas encore partie en Éthiopie, elle est à Jérusalem. Et cette scène fonctionne comme une sorte de programme liturgique qui est destiné à la communauté du Second Temple. En fait, c'est une sorte d'anthologie de psaumes qui accompagne l'installation de l'Arche à Jérusalem. C'est construit à partir de plusieurs psaumes. Et il est indiqué dans ce texte que David établit des Lévites pour commémorer, célébrer et louer le Seigneur, le Dieu d'Israël. Alors là, on a 3 verbes importants qui vont structurer ce chapitre, commémorer, célébrer, louer. Et ça nous dit évidemment la teneur, n'est-ce pas, de ce qui est en train de se jouer. Alors, je ne peux peut-être pas rentrer dans les détails, mais si on regarde ce que 1 Chronique 16 reprend des psaumes, en fait, on voit que ce qu'il reprend des psaumes, c'est des parties très précises, parce que les psaumes dont il est question, surtout le psaume 105 et le psaume 106, ce sont des vastes relectures de l'histoire, mais en fait, le premier livre des Chroniques, chapitre 16, ne retient du psaume 105 que la mémoire des patriarches, mais laisse de côté l'Exode. Il va garder du psaume 96 une sorte d'action de grâce à la souveraineté de Dieu. Et il garde du psaume 106 l'action de grâce initiale et puis l'appel au secours qui apparaît à la fin du psaume. Mais là encore est passé sous silence l'Exode, est passé sous silence même les murmures du désert. Ça veut dire qu'en fait, sous la plume du chroniste, Israël, c'est une nation sainte qui est guidée par des prêtres. Ils sont d'ailleurs appelés les oins, ce sont ceux qui reçoivent l'onction. Donc Israël est une nation sainte guidée par des prêtres et des lévites et l'accent est mis sur la foi en l'unique Dieu qui est à la fois le Créateur et le Souverain de toute la terre. Si on regarde le deuxième livre des Chroniques au chapitre 3, la construction du temple de Salomon n'est pas non plus rattachée à l'Exode, comme c'est le cas dans le premier livre des Rois au chapitre 6, puisque dans le premier livre des Rois au chapitre 6, on nous dit l'an 480 après la sortie des fils d'Israël du pays d'Égypte. Donc cette mention, elle disparaît dans le chronique, dans le livre des chroniques, mais est plutôt désignée, on en a parlé juste avant, enfin tout le monde en a parlé juste avant, est plutôt désignée par David le lieu où va être érigé le temple, c'est-à-dire l'ère d'Ornan le Jébuséen. Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, enfin, au chapitre 6 du deuxième livre des chroniques, là non plus, pas de référence à l'Exode, vous voyez les deux textes en comparaison à l'écran. Du côté de 1 roi 8, l'alliance de Yahvé qu'il a conclue avec nos pères lorsqu'il les fit sortir d'Égypte, et de l'autre côté, dans le deuxième livre des chroniques, l'alliance de Yahvé qu'il a conclue avec les fils d'Israël. Donc il n'est plus question de la sortie d'Égypte ou donc de l'Exode. Ça veut dire que dans Chronique, l'alliance, elle est perçue comme une réalité permanente qui appartient à Israël, et finalement, il appartient à chaque génération d'actualiser cette réalité de l'Alliance. Alors évidemment, les différences, là j'en ai parcouru à gros traits, mais on va le voir plus en détail avec ce qui concerne David plus tard, les différences qu'on peut observer entre Samuel roi d'un côté et Chronique de l'autre, ça pose la question de savoir quelle est la forlague hébraïque du chroniste, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'il s'appuie. Alors, la thèse dominante, ça a longtemps été que le texte hébreu des chroniques dépendait du texte massorétique, enfin du texte proto-massorétique de Samuel. Mais cette thèse dominante, elle est aujourd'hui souvent remise en cause, puisqu'il y a de nombreux chercheurs qui, à l'instar de Cross, par exemple, considèrent que la forlague du chroniste, elle diffère de celle du texte massorétique de Samuel et elle provient d'un texte hébreu assez différent qui est attesté à Qumran par le manuscrit de la quatrième grotte, 4Q Samuel A, et qui serait en grande partie en fait conservé dans la Septante de Samuel. Holt va même jusqu'à contester la primauté chronologique de Samuel roi, donc ça c'est une hypothèse qui a son originalité, puisqu'il avance que Chronique et roi dériveraient d'une source commune datant au plus tôt de l'époque perse. Et il va même jusqu'à reconstituer une source commune, le livre des deux maisons, qui serait utilisé à la fois par le deutéronomiste et par le chroniste. Bon, donc ça fait quelques débats sur le sujet. Ce qu'on peut dire encore, c'est que si beaucoup de chercheurs considèrent que la plupart des différences entre Chronique et Samuel Roy sont dues au chroniste lui-même, qui donc relirait Samuel Roy, mais en apportant sa propre touche, si vous voulez, sans doute faut-il un peu de prudence et se dire qu'on ne peut pas tout attribuer au chroniste et que probablement, chaque fois qu'il y a un lieu variant, il faut essayer d'évaluer d'où il vient. Alors c'est la position en particulier de Mackenzie qui est peut-être plus nuancée. En tout cas, l'existence du manuscrit de Qumran permet de déduire qu'en différents lieux, la source du chroniste, elle diffère effectivement de la forlague du texte massorétique de Samuel. Alors ça se vérifie par exemple lors du recensement du peuple dont on a parlé juste avant, dont il est question en 2 Samuel 24 ou en 1 Chronique 21. Juste pour donner un petit exemple, il y a une ample description de l'ange qui est donnée dans le premier livre des Chroniques au chapitre 21 verset 16, qui en fait est absente du texte massorétique de Samuel, mais qui se retrouve dans le manuscrit de Qumran. Ça dit la chose suivante. Et David leva les yeux et il vit l'ange du Seigneur dressé entre la terre et les cieux et son épée tirée dans sa main et tenue vers Jérusalem. Et dans le texte de Qumran, on aurait quelque chose comme « Et David leva les yeux, il vit l'ange du Seigneur dressé entre la terre et les cieux et son épée tirée dans sa main et tendue contre Jérusalem. » Donc on ne peut pas considérer ici que le développement du texte en 1 Chronique 21-16, c'est comme une sorte de plus du chroniste, quelque chose que le chroniste aurait ajouté, mais il faut plutôt considérer que donc il a une autre forlague que le livre de Samuel. Et d'une manière générale, on peut dire aussi que les fragments des manuscrits de la Mère Morte du livre de Samuel s'accordent assez fréquemment avec des lectures qui sont communes à 1 Chronique et la Septante de Samuel contre le texte massorétique de Samuel. Bref, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Un petit peu. Bon, ben, ça va devenir plus simple après. Ça, c'était pour situer le livre. Ça veut dire qu'en fait, le texte de Samuel qui était utilisé par le chroniste, il était proche de la version de Samuel dont on a la trace dans la Septante. Vous voyez ? Donc en fait, c'est juste pour dire que c'est un peu simple de dire que chroniste fait une relecture de ce que l'on peut lire dans les livres de Samuel et des rois. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme s'il, quelquefois on dit c'est une relecture de l'histoire ou il infléchit l'histoire. Quand on regarde dans le détail, ça semble quand même un peu plus compliqué. En tout cas, pour les livres de Samuel, c'est un peu plus simple pour les livres des rois, mais pour les livres de Samuel, c'est assez compliqué. Bon, il n'en reste pas moins que le livre des chroniques a pour source des textes bibliques. Il y a quand même évidemment des liens avec Samuel et roi. On a vu qu'il y avait des liens avec les psaumes. Il y aurait des liens aussi avec des textes prophétiques. Bon, la question, c'est toujours de savoir... Voilà, les liens avec des textes, sous quelle forme, hein ? En tout cas, il a un usage de ces sources qui est, qui relève d'un processus relativement sophistiqué, hein, sur le plan textuel, mais aussi sur le plan littéraire et théologique, et que ce qu'on peut dire quand même aussi, c'est qu'il produit une œuvre littéraire qui est entièrement nouvelle. Alors, je vous ai dit dès le début, il donne une importance au culte, hein, et au chant liturgique, ce qui induit d'emblée, hein, que l'auteur ou les auteurs de ces livres, là aussi il faudra nuancer, mais que les auteurs de ces livres pourraient appartenir au groupe des Lévites, parce que comme on va le voir, il est beaucoup question des Lévites dans les chroniques. Après, les spécialistes débattent encore pour savoir si la rédaction du livre elle remonte à la moitié de l'époque, à la seconde moitié de l'époque perse ou au début de l'ère hellénistique. Donc il y a un petit débat sur la datation. Sarah Yafet, par exemple, que vous avez à l'écran à gauche, souligne que ses écrits, qui pour elle sont rédigés au IVe siècle avant notre ère, reflètent les préoccupations d'un groupe lévitique, hein, qui est profondément attaché au culte du temple de Jérusalem et aux chants psalmiques. Et donc, il retrace l'histoire d'Israël, comme je vous l'ai dit, depuis les origines jusqu'à la monarchie davidique, puis la déportation. Dans quel but ? Eh bien, dans le but de montrer que la communauté post-exilique, donc après la domination babylonienne, est en fait l'héritière, hein, légitime, ininterrompue de cette tradition ancienne. Et elle souligne encore que ces livres des chroniques mettent l'accent sur une identité d'Israël qui est centrée sur Juda, hein, centrée sur Jérusalem et sur le temple. Et elle dit bien, ce n'est pas un simple compilateur, hein, comme je vous le disais, il fait vraiment une œuvre littéraire. Il a son propre matériel, il ne fait pas que reprendre des sources anciennes qu'il arrangerait à sa sauce. Hein, il a son propre matériel aussi et il fait vraiment une œuvre propre. Et puis, dans le monde francophone, vous avez Philippe Abadi, qui a aussi écrit un petit livre sur le livre des chroniques, toujours dans la collection Mon ABC de la Bible. Lui, il écrit, et je cite là ce que vous avez à l'écran, « Plus qu'un rappel du passé, les chroniques livrent au lecteur une quête de légitimité. Qu'est-ce qui définit le présent d'une communauté privée de son roi qui s'établit autour du temple ? On l'aura compris, ces deux livres, qui forment un ensemble, traduisent moins la recherche historique sur un passé à jamais mort qu'ils ne déploient les espérances des Juifs durant la période perse à travers la médiation croyante des Lévites établis au service du temple reconstruit. » Autrement dit, globalement, les livres des chroniques apparaissent très unifiés, encore qu'on va nuancer ça tout à l'heure, et ils reflèteraient donc l'idéologie des Lévites du Second Temple, avec leurs revendications, hein, d'un statut sacerdotal lié à la liturgie, hein, du temple. Mais on verra qu'il y a quelques conflits quand même, hein, qu'il y a quelques traces sacerdotales, quelques conflits internes entre des classes de prêtres, hein, probablement, qui ont laissé leurs traces dans le livre. Donc ça, c'était pour situer les choses un peu globalement. Maintenant, je propose de rentrer plus, voilà, dans quelque chose de plus concret, donc ça va être plus facile, enfin du moins je l'espère. Quelle est la figure de David, hein, que construit le livre des Chroniques? Alors, il est question de David dans le premier livre des Chroniques, du chapitre 11 au chapitre 29, et en fait, on peut faire une synopse, vous voyez, c'est ce qui apparaît à l'écran, entre ce qui est raconté dans Chroniques et ce qui est raconté dans Samuel. On retrouve évidemment des événements communs, la mort de Saül, l'onction de David, roi d'Israël à Hébron, la prise de Jérusalem par David, la liste des preux de David, la première tentative d'amener l'arche à Jérusalem, le traité avec Hiram de Tyr, la victoire sur les Philistins, puis finalement la deuxième tentative pour amener l'arche à Jérusalem, où elle est installée, la promesse divine d'une dynastie, puis les questions évidemment de pas mal de guerres et de l'administration du royaume, encore de guerres contre les Ammonites et les Araméens, du siège de Rabba, de la victoire sur les Philistins, du recensement du peuple, et de la construction d'un autel. Donc on peut comparer, hein, un certain nombre de choses. Après, les chapitres 22 à 29 racontent comment David reçoit le modèle du temple, hein, de ce temple qu'il ne va pas construire, mais il en reçoit le modèle et il va donner le modèle à Salomon. Hein, il va communiquer le modèle à Salomon, il va le lui léguer, et puis il va organiser les classes des Lévites, les classes des prêtres, en fait, tout ce qui touche à la fonction lévitique. Il va aussi élaborer une organisation civile, militaire, des tribus d'Israël. Et puis, il va donner des instructions pour la construction du temple. Donc, en fait, comme on le reverra, David, c'est quasiment celui, pas qui construit le temple, ce n'est pas lui qui va le faire, mais c'est lui qui prépare tout, organise tout. Salomon, il n'a plus qu'à exécuter ce que son père a décidé. Alors, que dire encore ? Sur 933 versets du premier livre des Chroniques, 933, il y en a 526, ça veut dire plus de la moitié, qui sont consacrés à David. Donc, vous voyez, c'est juste pour dire que David a une place quand même très très importante. Et puis, on peut ajouter ensuite quelques centaines de versets qui sont relatifs à la descendance de Juda et qui ont leur centre justement sur la figure de David et sur la lignée davidique. Puis comme je vous l'ai dit, l'ombre de David, elle plane encore sur les récits qui concernent Salomon, hein, puisqu'au fond, Salomon va exécuter les plans de son père. David va aussi servir de référence pour les réformes liturgiques qui, selon les livres des Chroniques, sont entreprises par Josaphat, par Ézéchias, par Josias. Ça veut dire que, clairement, pour le chroniste, David, c'est la figure essentielle, hein, de l'histoire. C'est celle qui, finalement, donne cohérence à l'histoire et surtout à la liturgie du temple. Il y a peut-être une petite précision qu'on peut apporter, c'est que le chroniste est assez proche du livre de Samuel quand il traite des activités profanes de David. Mais en fait, il prend vraiment distance quand il s'agit des activités liturgiques. Alors c'est le cas, par exemple, pour le transfert de l'arche à Jérusalem, qui en 2 Samuel 6 occupe 23 versets, et en 1 Chronique 13 comporte 86 versets. Vous voyez, c'est beaucoup plus conséquent comme récit. Et puis, Chronique, je vous l'ai dit, a des passages propres, en particulier en ce qui concerne le legs cultuel de David à son peuple. On peut remarquer que 1 Chronique ne mentionne pas la période durant laquelle David n'a pas régné sur Juda et pas sur tout Israël. Il ne raconte pas non plus l'aide que David a offerte au fils de Jonathan. Il ne raconte pas l'épisode qu'on vient de voir, hein, l'adultère avec Bethsabée. Il ne raconte pas non plus les querelles qu'on a vues, hein, pour sa succession, qui ont finalement assombri la fin du règne de David. Et il ne raconte pas non plus les intrigues qui ont conduit Salomon au temple. Vous voyez, on enlève quand même quelques passages un peu scabreux, hein, ou un peu voilà, difficiles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence, évidemment, dans les passages qui sont relatifs à la liturgie, mais elles sont moins significatif. Par exemple, si on prend juste un exemple, David, c'est le fils cadet de Jessé, n'est-ce pas ? Et selon la généalogie qui est conservée dans le premier livre des Chroniques au chapitre 2, Jessé, c'était un judéen de la maison de Pérets, petit-fils de Boaz, ce que 1 Samuel ne rapporte pas. David a 7 frères, si l'on en croit 1 Samuel 16. Par contre, 1 Chronique 2 est un peu plus prolixe, puisque on nous y donne les prénoms des frères de David, hein, par ordre de naissance, et David est présenté comme le 7e fils. Puis il y a aussi 2 sœurs qui sont ajoutées, dont il est question plus loin dans le 2e livre de Samuel. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas le même nombre de fils, en fait. Bon, ce n'est pas très grave, vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose, peut-être dans l'histoire, savoir combien ils étaient. Mais il y a une différence entre 1 Samuel 16 et 1 Chronique 2, à propos du nombre des fils de Jessé. Alors, ça a reçu plusieurs explications. Hein. Pour les uns, dans les littératures anciennes, le 7e fils, c'est celui qui a la place favorisée, hein, c'est le chiffre 7. Donc, faire de David le 8e, bah, ça dit, bon, oui, en fait, il a des commencements assez humbles. Pour d'autres, il y aurait un jeu entre le chiffre 7 et le chiffre 8 qui relèverait d'une pratique d'écriture de récits épiques, hein, où 7, ça désigne en fait le chiffre dans la fratrie, hein, il est le 7e, il est le 8e, ça c'est pour dire que c'est lui qui a la position culminante. Hein, c'est celui qui va éclipser tous ses frères. Ou encore, on pourrait comparer cette différence avec des formules telles que celle qui apparaît dans le livre de Michée, au chapitre 5, verset 4. « Nous dresserons contre lui 7 bergers, 8 princes humains. Hein, » Donc, on va dresser 7 bergers, 8 princes humains. Bon, ça dit peut-être quelque chose d'assez emphatique. En tout cas, là où ils sont d'accord, c'est que David, c'est le cadet. Hein, c'est le petit dernier des fils de Jessé. Selon 1 Chronique 16, il sait jouer d'un instrument de musique, hein, d'un instrument à cordes, c'est donc un berger pourvu d'un instrument de musique, un instrument que 1 Chronique 15 range parmi les instruments qui sont à disposition des chantres lévitiques. Hein, et donc, à disposition des chantres lévitiques, ça veut dire que l'instrument que possède David, c'est l'instrument qui sert au culte. Hein. En 2 Samuel 6, cet instrument, on va l'appeler la cithare, même si on peut discuter la traduction, mais peu importe. Donc la cithare accompagne la procession qui procède au transfert de l'arche à Jérusalem. Et en 1 Chronique, David, il est musicien, hein, comme dans le livre de Samuel, mais il est aussi le maître de la liturgie, hein, le maître de la musique à Jérusalem. Il est le fondateur du culte. Et 1 Chronique 15 raconte qu'il est parmi les Lévites qui font monter l'arche à Jérusalem. Il est vêtu comme eux, il agit de la même manière, il est décrit comme prompt à louer Dieu, et c'est lui qui va confier aux Lévites, hein, à Asaph et ses frères, de faire pareil que lui, hein, d'être donc parmi ceux qui louent le Dieu d'Israël. Je vous l'ai dit, il est le constructeur du temple, ça veut dire que en gros, et on va le revoir encore, hein, la figure de David, elle est dans les livres des Chroniques, elle est idéalisée et est projetée sur cette figure une réalité culturelle quelque peu utopique qui, en fait, laisse apercevoir, hein, les aspirations des chantres lévitiques. Je signale peut-être encore une petite différence et puis on va rentrer dans des épisodes plus précis. En 2 Samuel 24 et en 1 Chronique 24, il est question du fameux recensement. Hein. Alors, 2 Samuel 24 dit qu'il va recenser Israël et Juda, et 1 Chronique va dire qu'il va recenser tout Israël. Alors ça, c'est quelque chose que l'on va voir revenir constamment, hein, dans le livre des Chroniques, le « tout Israël ». De plus, 1 Chronique 21... Dans 1 Chronique 21, ce n'est plus Dieu qui, comme en 2 Samuel 24, excite David, hein, qui lui demande de dénombrer le peuple, c'est Satan, sans article, qui incite David à pécher. Ça veut dire que le chroniste introduit un adversaire, hein, et non pas Dieu, qui va se dresser contre Israël. En dépit de l'ordre reçu, Joab se refuse à recenser la tribu sacerdotale de Lévi, hein, et celle de Benjamin, ça c'est raconté donc au chapitre 21, verset 6. refus de recenser la tribu sacerdotale de Lévi de Benjamin, selon là où, selon le livre de Josué, se trouve le temple, hein, c'est-à-dire un bien qui est attribué à Dieu, ce qui finalement minore la faute du roi. En 2 Samuel 24, le roi mesure l'étendue de sa faute, ce qui suggère que, implicitement, il était averti du péché à ne pas connaître, tandis que en 1 Chronique 21, ce n'est qu'en voyant le châtiment qui frappe Israël que David prend conscience de sa faute. Hein, donc, il est moins coupable, si vous voulez, hein, dans le livre des Chroniques. Si le roi a agi avec ignorance, quand même une certaine imprudence, donc il n'est pas vraiment coupable, et sa faute entraîne chez lui une confession immédiate. Ça veut dire que le livre des Chroniques fait de David un pécheur repenti, hein, qui prend sur lui la faute, sa propre faute, et la faute de sa famille, qui va s'humilier, qui va intercéder en faveur de son peuple. Et ça, on va le retrouver dans d'autres épisodes. Alors, je vous propose de vous arrêter un peu sur le choix de Jérusalem et le transfert de l'arche. En 1 Chronique 11, il nous a raconté l'onction de David de la façon suivante. Tout Israël se rassembla auprès de David à Hébron en disant « Voici que nous sommes tes os et ta chair. Il y a longtemps déjà, même quand Saül était roi, c'est toi qui faisais sortir et rentrer Israël. Or le Seigneur ton Dieu t'a dit « C'est toi qui feras paître Israël mon peuple, et c'est toi qui seras chef d'Israël mon peuple. Tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron, et David conclut en leur faveur une alliance à Hébron devant le Seigneur. Ils oignirent David comme roi d'Israël, selon la parole du Seigneur transmise par Samuel. » Et puis, tout aussitôt, il nous est raconté la prise de Jérusalem. En revanche, dans le sommaire du deuxième livre de Samuel au chapitre 5, la mention de Jérusalem anticipe en quelque sorte le récit qui suit, puisqu'il nous est dit « David avait 30 ans quand il devint roi, il régna 40 ans, à Hébron il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. » Donc vous avez un sommaire qui n'apparaît pas dans le premier livre des Chroniques, qui nous laisse comprendre que en fait, le chroniste tend à nier la dualité Israël-Juda. Vous avez entendu, c'est tout Israël. Et ça, c'est constamment répété, tout Israël. Donc ça veut dire que pour le chroniste, dès le commencement, David aurait régné sur tout Israël. C'est même un tout Israël qui d'ailleurs fait roi David après la mort de Saül, selon la volonté de Dieu transmise par le prophète Samuel. Ça veut dire que l'élection de David et la prise de Jérusalem, elles apparaissent en 1 Chronique comme deux expressions de l'unité d'Israël. C'est tout Israël. En 2 Samuel, le récit de la prise de Jérusalem commence de façon assez laconique en indiquant que le roi et ses hommes marchèrent sur Jérusalem contre les Jébusites qui habitaient le pays. En fait, 1 Chronique va donner une vision plus idéalisée en indiquant de nouveau que c'est le roi et tout Israël, donc il a tout le peuple derrière lui, le roi et tout Israël, qui marchèrent sur Jérusalem. Et puis 2 Samuel 5,6 ajoute, on dit à David, tu n'entreras ici qu'en écartant les aveugles et les boiteux. C'était pour dire, David n'entrera pas ici. Donc ça c'est un verset pour le moins compliqué, si jamais il y en a qui ont envie de faire des recherches. C'est un verset difficile à expliquer. À première vue, le propos semble souligner que la ville fortifiée est imprenable, au point que même des individus dépourvus de force pourraient repousser David. Mais d'autres, des exégètes, comprennent que les Jébuséens y basent leur confiance sur le fait que David aurait déjà été repoussé par des défenseurs d'un calibre inférieur, celui des troupes aguerries qui sont prêtes à défendre la ville. Et d'autres exégètes encore évaluent que les aveugles et les boiteux incitent les Jébuséens à dire que David n'entrera pas dans la ville. Et d'autres encore disent que ces aveugles et ces boiteux, ce seraient les instruments d'une défense rituelle de la ville. Bon, vous voyez, ça fait pas mal d'hypothèses. J'en rajoute encore une autre, puisqu'il y en a encore qui disent que les hommes de David, en fait, C'est eux qui sont moqués hein, et présentés comme des aveugles et des boiteux face à une forteresse qui est imprenable. Donc ça, c'est une difficulté du texte. Il y en a une autre qui apparaît en 2 Samuel 5,8. Je ne sais pas en fait ce que tu as dit, Thomas, sur la question. Je n'ai pas écouté ce cours-là. Mais en 2 Samuel 5,8, il est écrit « David dit en ce jour-là, quiconque veut frapper le Jébusite doit atteindre le canal. Quant aux boiteux et aux aveugles, ils dégoûtent David. C'est pourquoi l'on dit « aveugles et boiteux n'entreront pas dans la maison ». Alors ça veut dire quoi ? Est-ce que David commande à ses hommes de monter par un canal ? Et puis pourquoi est-ce qu'il est de nouveau question des boiteux et des aveugles que David est ? Oui. Donc là, on a plusieurs hypothèses encore qui sont proposées. Soit s'il y a un canal, ce qui est discutable, mais s'il y a un canal, ben en fait, le canal offre le point faible par où pénétrer dans la ville. Hein. Soit que, c'est une autre hypothèse, le mot de hébreu ne désigne pas un canal, mais désigne plutôt la gorge. Hein, ça veut dire que David inviterait ses hommes à tuer les Jébuséens plutôt que de les blesser ou de les mutiler. Alors, la première explication, elle est à prendre, évidemment, avec précaution d'un point de vue historique. Ça peut relever d'une légende étiologique. Hein. Ça veut dire qu'elle fournirait une explication au système de puits et de tunnels qui auraient été mis à jour par les archéologues sur le versant oriental de la cité de David. Mais la deuxième solution, en fait, elle offre une explication à la mention de la haine de David pour les boiteux et les aveugles. Hein, ça veut dire que, donc, il ordonnerait à ses hommes de frapper les Jébuséens d'un coup fatal pour que la ville ne soit pas remplie d'individus mutilés. Il y a encore une autre hypothèse qui a été émise selon laquelle aveugles et boiteux sont des adorateurs ou des prêtres hein, auxquels il est interdit de pénétrer dans le sanctuaire. Hein. Donc, bon. Ceci dit, on peut toujours discuter parce que le mot qui apparaît en hébreu, il peut être traduit par temple, mais il peut être aussi traduit par palais. Donc certains voient aussi une allusion au fils de Jonathan, hein, donc petit-fils de Saül, qui donc était boiteux. Bon. En tout cas, le livre des Chroniques contourne les difficultés en omettant la mention des aveugles et des boiteux, hein, puisqu'on lit « Et David, ainsi que tout Israël, marcha sur Jérusalem, c'est-à-dire Jébus, où étaient les Jébusites qui habitaient le pays. Les habitants de Jébu dirent à David, « Tu n'entreras pas ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Il avait dit en effet, « Le premier qui battra les Jébusites deviendra chef et prince. » Joab, fils de Seruya, monta le premier et devint chef. Et vous avez entendu au passage qu'il y a un élément qu'on n'a pas dans le livre de Samuel, à savoir que c'est Joab, hein, qui est devenu le chef des armées de David en tuant le premier, un Jébuséen. Donc là, on a une explication qui est donnée. De Samuel et Chronique s'accordent ensuite pour signaler que David a renommé la ville de son nom, et donc elle sera appelée désormais Cité de David, et ils indiquent ben, que la ville a été restaurée et que le rempart a été réparé. Le récit de la prise de Jérusalem, la mention de l'installation de David dans cette ville, et deux brèves narrations de combats avec les Philistins suggèrent qu'un temps assez long se passe avant que David ne transfère l'arche à Jérusalem. En outre, le récit de la prise de Jérusalem est suivi dans le premier livre des Chroniques de la liste des braves de David qui, en fait, dans le livre de Samuel, ne sont nommés que bien plus loin, en 2 Samuel 23. 2 Samuel 5 et 1 Chronique 11 soulignent aussi avec insistance que Dieu assiste David. Hein, David devint de plus en plus grand et le Seigneur, le Tout-Puissant, était avec lui. Bon, il y a donc cette connotation positive hein, de la figure de David que Dieu accompagne. Alors après, 2 Samuel 6 raconte donc le transfert de l'arche, donc une sorte de sanctuaire transportable, à Jérusalem. Et vous voyez que de nouveau en Chronique, il est question de tout Israël. C'est tout Israël qui se rassemble à l'appel de David pour faire monter l'arche depuis Kiriath Yearim jusqu'à Jérusalem. Et 1 Chronique 13 précise même, David assembla tout Israël depuis le torrent d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir l'arche de Dieu de Kiriath Yearim. Donc de nouveau cette définition d'un Israël unifié, tout Israël. Alors, c'est dans ce contexte que sont situées les victoires contre les Philistins, hein, et ça nous fait voir un David qui est un roi victorieux, qui est un roi béni. Il tente pour la seconde fois de faire monter l'arche à Jérusalem, ça n'a pas marché une première fois, il recommence une deuxième fois. Et en fait, dans le livre des Chroniques, rien n'entache la vision positive de David, contrairement à ce qui se passe en 2 Samuel 6, où quand il tente à nouveau de faire monter l'arche à Jérusalem, il le fait après qu'on lui a donné cette information. Le Seigneur a béni la maison de Obed-Edom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. Donc on peut se dire, ben là, David, il a entendu que c'était pas mal d'avoir l'arche avec soi, et donc il se dit, bon, on va la faire monter à Jérusalem. Et le récit ajoute d'ailleurs, David partit alors et fit monter l'arche de Dieu de la maison de Obed-Edom à la cité de David dans la joie. En 1 Chronique 15, on n'a pas ça. En 1 Chronique 15, la décision de faire monter l'arche à Jérusalem, ça relève d'un motif purement religieux. Et David prend particulièrement soin de l'organisation du transfert. Il dit, c'est au chapitre 13, c'est le texte en haut de l'écran, « Pour porter l'arche de Dieu, il n'y aura que les Lévites, car le Seigneur les a choisis pour porter l'arche du Seigneur et pour le servir à jamais. » Et en fait, dans le livre des Chroniques, le délai des 3 mois entre les 2 tentatives pour transférer l'arche à Jérusalem, ce temps est mis à profit pour organiser ce groupe des Lévites, un groupe de Lévites qui soit donc apte à faire monter l'arche à Jérusalem. David leur dit, « Puisque la première fois vous n'étiez pas là, le Seigneur notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon les règles. » Voilà, donc la première fois, il manquait les Lévites. Donc, entre-temps, on s'organise, on organise les classes de Lévites, et puis deuxième tentative, et ça fonctionne. Bon, vous voyez que contrairement à ce que rapporte le récit de 2 Samuel 6, David, donc, il n'agit pas par calcul ici, il agit comme le roi qui organise le culte à Jérusalem. Et encore une fois, il apparaît comme fortement lié à la classe des Lévites. Il est même semblable à eux, le texte nous dit « David était revêtu d'un manteau de byssus, ainsi que tous les Lévites portant l'arche, les chantres et Kenania, le chef du transport. David avait sur lui aussi un éphod de lin. » Ça veut dire que David, il est présenté comme le chef des Lévites, comme le modèle des Lévites. Donc David rassemble tout Israël, il réunit Aaron et les Lévites, il convoque les prêtres, il organise la musique, les chants, et puis donc il fait monter en grande liesse l'arche à Jérusalem. Selon le deuxième livre des Chroniques au chapitre 15, verset 27, il danse en tournoyant avec les Lévites, et puis qu'une fois que l'arche est déposée dans la tente qui est dressée pour elle, il met les Lévites en fonction devant l'arche. Et le texte dit « afin de commémorer, de célébrer, de louer le Seigneur, le Dieu d'Israël ». Voilà, tout est prévu, tout est bien organisé. L'arche est à Jérusalem, David a organisé les Lévites, et les Lévites ils sont installés là, Asaph et ses frères, eh bien pour assurer un service continuel devant l'arche, selon l'ordre prévu pour chaque jour. Tout est réglé, une liturgie nickel, bien réglée, où rien n'est laissé au hasard. Donc en somme, David, il agit bien en leurs circonstances comme un organisateur du culte, comme le maître de la liturgie. Autrement dit, un chronique construit une figure liturgique de David. Et encore une fois, on peut se dire quand même cette construction de la figure de David, elle est finalement au service des aspirations des chantres lévitiques. On peut dire presque que ça apparaît comme un plaidoyer juridique pour les Lévites, puisque l'auteur projette dans le passé une réalité cultuelle, probablement à laquelle il aspire. Vous voyez ce que je veux dire les aspirations du moment sont projetées dans un passé qui est idéalisé. Alors pourquoi David n'a-t-il pas construit le temple s'il est celui qui organise le culte? En fait, il y a plusieurs explications qui ont été avancées, qui sont plus ou moins convaincantes. La première, c'est que la construction d'un temple stable et permanent aurait contredit la vision nomade de la divinité, qui était donc une divinité nomade dans le temps idéal du désert, enfin, pas si idéal d'ailleurs, mais dans le temps du désert, Hein. Et dans ce cadre, l'annonce de la construction du temple par un fils de David, en 2 Samuel 7, est d'ailleurs considérée par certains comme un ajout. Hein. Le but, ce serait de légitimer la centralité du temple de Jérusalem et la royauté de Salomon. La deuxième explication, c'est que le transfert de l'arche à Jérusalem resterait inachevé tant qu'elle demeurait sous une tente. Hein. Et David aurait envisagé de restaurer un ancien sanctuaire. Et puis, il y a une troisième explication qui est que, dans le plan de Dieu, ce n'est pas le temps de construire le temple. Le rôle de David, au fond, c'est de procurer la paix à son peuple. Il doit assurer la sécurité dans le pays, défaire les ennemis. Et puis, quand ça se sera fait, alors on pourra penser à construire le temple. Et l'explication, il faut bien le dire, qui est avancée par le livre des Chroniques, se situe dans cette perspective. Puisqu'il est écrit au chapitre 22, David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais à cœur moi-même de construire une maison pour le Seigneur mon Dieu, mais la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes, « Tu as répandu beaucoup de sang, tu as fait de grandes guerres, tu ne construiras pas de maison pour mon nom, car tu as répandu beaucoup de sang sur la terre devant moi. » Donc vous voyez, c'est un discours qui légitime la construction du temple par Salomon. Alors vous avez deux fois la mention du sang qui est versé par David. Ce n'est pas pour dire quel garnement, il a commis beaucoup de crimes, ce n'est pas un jugement moral qui est porté ici sur David. C'est plutôt le fait que lui, il a eu à avoir, si vous voulez, une activité guerrière. Il était celui, comme je vous ai dit, qui devait assurer la sécurité dans le pays. Et dans le livre des Chroniques, on ne peut pas dissocier activité guerrière et activité religieuse. Mais voilà, c'est Salomon qui construira le temple. Le texte du premier livre des rois au chapitre 5 vient à l'appui de cette lecture d'ailleurs, puisqu'elle fait mentionner par Salomon les nombreuses guerres que dut conduire son père. Pour le résumer, hein, si Salomon peut ériger le temple, c'est parce que la tranquillité est assurée autour de lui, hein, la sécurité est assurée autour de lui. Et que Dieu, donc, dit le texte de Chronique, lui donne paix et tranquillité pendant ses jours. Hein, paix et tranquillité pendant les jours de Salomon à Israël. Donc, on peut construire le temple. Deutéronome, au chapitre 12, verset 10-11, relie bien d'ailleurs l'érection du temple à l'entrée du peuple dans le repos, puisqu'il est écrit « Mais vous allez passer le Jourdain, vous habiterez dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne comme patrimoine, il vous accordera le repos face à tous vos ennemis d'alentour et vous y habiterez en sécurité. C'est dans le lieu choisi par le Seigneur votre Dieu pour y faire demeurer son nom que vous apporterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, etc. » Donc voilà, hein, le premier livre des Chroniques, et vous voyez que ça s'accorde avec Deutéronome ici, le premier livre des Chroniques, il construit un contraste entre Salomon qui est appelé homme de repos et David qui est homme de guerre. Et encore une fois, ce ne sont pas des qualificatifs qui disent la moralité de ces personnages, hein, mais au fond, est donné à David ce qui est refusé à David, hein, le repos, la sécurité hein, que David lui a acquise d'une certaine manière, et le temple donc, peut être construit. Et le temple, il est qualifié en 1 Chronique 28 de « maison de repos hein, ». Donc Salomon, l'homme de repos, le repos d'Israël pendant la période pendant le règne de Salomon, ça permet la construction de la maison de repos, c'est-à-dire le sanctuaire. En outre, le texte met dans la bouche de Dieu un propos assez clair à l'adresse de David. Hein, dans le texte dit « Ce n'est pas toi qui me bâtirais la maison pour que je m'y installe », alors que 2 Samuel 7 comporte une interrogation. Hein, « Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que je m'y installe ?» Donc, Chronique dit « Ben non, c'est pas toi qui me construiras la maison, il n'y a pas de question, c'est comme ça. » Mais, encore une fois, ce n'est pas accompagné d'une condamnation de David. Il ne le fait pas simplement parce que lui, il a eu autre chose à faire. Alors, David, c'est encore celui donc, qui organise le culte. Dans les chroniques, il est raconté que Dieu commande à David, par l'intermédiaire du prophète Gad, de lui construire un autel sur l'aire d'Ornan le Jébuséen. Alors que fait David ? Ben, il achète l'aire, il construit l'autel, il offre des holocaustes, des sacrifices de communion, il invoque Dieu, et Dieu répond par un feu venant du ciel sur l'autel des holocaustes. Alors, c'est pas sans rappeler d'ailleurs l'épisode de 1 roi 18, vous savez, avec Élie qui combat les prophètes de Baal, qui construit un autel, qui appelle son Dieu, et le feu consume tout ce qui est sur l'autel. Alors, voyant que Dieu lui a répondu, David fait encore un sacrifice, puis il dit « C'est ici la maison du Seigneur Dieu, et voici l'autel de l'Holocauste pour Israël. » Et c'est comme ça que David désigne l'aire de Ornan comme l'emplacement du futur temple. Hein, donc l'autel qui est dressé là, ben, c'est l'autel du futur temple. Et puis David présente ensuite à Salomon et aux officiers d'Israël son projet de construction du temple, tous les préparatifs qu'il a fait pour ça. Et il dit « Mon fils Salomon est encore jeune et faible. » Et la maison à construire pour le Seigneur doit être renommée dans tous les pays pour sa grandeur et sa splendeur. Je ferai donc pour lui des préparatifs. Hein, ça, c'est 1 Chronique 22. Donc, vous voyez, un père qui est bien attentionné à l'égard de son fils, il va faire tous les préparatifs. Si David donc, ne construit pas le temple, il le veut magnifique, hein, on vient de l'entendre, et il fait tout pour qu'il en soit ainsi. Et il va dire aux officiers, ben, vous allez quand même prêter main forte au petit Salomon pour qu'il fasse donc de ce temple un lieu magnifique. Et puis, il s'agira ensuite d'amener au temple l'Arche de l'Alliance et les objets sacrés de Dieu. Et puis, David met donc en place le personnel cultuel. Il présente Salomon comme le constructeur du temple à tout Israël, encore une fois. Il institue les Lévites pour présider donc, au temple, au service du temple. Il en fait les responsables des trésors, il en fait des chantres. Enfin, tout est organisé, il en fait des portiers, hein, tout est bien organisé. Alors, selon 1 Chronique 23, dans les versets 3-6, l'organisation des fonctions lévitiques, elles sont liées à David. Hein, c'est lui qui les institue, c'est lui qui les divise en quatre groupes. Le texte dit « Les lévites de 30 ans et plus furent alors comptés. Leur nombre, en les comptant par tête, fut de 38 000 hommes, soit parmi eux 24 000 pour diriger les travaux de la maison du Seigneur, 6 000 comme scribes et comme juges, 4 000 comme portiers et 4 000 pour louer le Seigneur avec les instruments que j'ai faits pour le louer. » David les répartit en classes. Et le verset est déployé plus loin dans le texte, puisqu'il va être de nouveau question des lévites au service du temple, des lévites juges, je vous l'ai dit, des lévites portiers, des lévites chantres, etc. Ça fait donc partie, si vous voulez, l'organisation des Lévites, ça fait partie du legs hein, que David fait à Salomon, en même temps d'ailleurs que les matériaux nécessaires à la construction du temple. Alors c'est quoi ces matériaux nécessaires à la construction du temple? Eh bien ce sont des butins de guerre, c'est la corvée qui est imposée aux étrangers, c'est le don de sujets qui sont attachés à David, et pour finir, et c'est pas le moindre, hein, le plan de Dieu, le plan du temple reçu de Dieu, hein, puisque donc David donne à Salomon le modèle du temple. Et ça, c'est intéressant parce que le mot qui est utilisé en hébreu, il lui donne le modèle, comme Moïse aussi avait reçu au Sinaï le modèle de la demeure. Hein. Donc, vous voyez que 1 Chronique fait remonter à David toute l'organisation de la mise en place de l'appareil liturgique du second temple, avec donc aussi le don du plan du temple. Ces données ne s'accordent pas tout à fait avec d'autres données que l'on a dans le livre des Chroniques à propos de l'organisation des classes sacerdotales. Il est question ailleurs de 24 classes de fonctions sacerdotales, hein, en 1 Chronique 24, qui parle des fils d'Aaron, et des classes lévitiques. Et puis il est question de procédés de tirage au sort, selon lequel chaque fonction est attribuée. Alors du coup, on ne sait plus où on en est. Est-ce que c'est David qui organise? Est-ce qu'il y a différentes classes sacerdotales? Est-ce que l'organisation se fait par tirage au sort? Les textes sont quelque peu contradictoires. Donc il y a deux éléments, hein, les 24 classes et le tirage au sort, qui minimisent d'une part le rôle de David hein, dans l'organisation cultuelle. Ça s'aligne en fait sur la législation du livre des Nombres. Et puis ça minimise aussi le rôle des Lévites. On lit d'ailleurs en 1 Chronique 23-13, « Fils de Aram, Aaron et Moïse, Aaron fut mis à part pour se consacrer au service du Dieu très saint, lui et ses fils à jamais, pour offrir le parfum devant le Seigneur, pour servir et pour donner la bénédiction à son nom à jamais. » Et donc, vous avez entendu que Aaron et ses fils sont nommés, hein, mis à part pour le service de Dieu. Donc, vous voyez, bien qu'il y ait une hypothèse qui dit que l'insistance sur les Lévites reflète le milieu porteur du livre des Chroniques, il y a des notations qui concernent les prêtres, qui sont probablement des relectures ultérieures, qui introduisent un petit peu de tension dans le texte. Hein. Ça veut dire que si le texte est un plaidoyer des droits des Lévites face à l'élite de prêtres revendiquant le monopole du culte, eh bien, il y a des relectures sacerdotales qui viennent s'opposer à cette revendication des Lévites. Bon, donc, si vous voulez, dans sa forme de transmission, le livre des Chroniques, il laisse quand même apparaître des tensions entre le clergé, rattaché à la figure de Aaron, et les Lévites, qui sont attachés ici à la figure de David. Alors, sur la question du culte, on ne peut pas dissocier David et Salomon. Comme on l'a vu plus haut, ce sont les deux qui, selon les chroniques, jouent un rôle fondamental dans la construction du temple de Jérusalem. C'est le lieu de la présence de Dieu. Et le thème de l'élection est très présent dans ces chapitres, avec donc la répétition de la racine barar, donc élire, qui réapparaît pour nommer plusieurs choses. Il y a d'abord deux grands élus qui sont David et Salomon, ils sont choisis, ils sont élus. Puis c'est la ville Jérusalem qui est choisie. David et Salomon, ils ont pour tâche d'édifier le lieu choisi, de nouveau, barar par Dieu. J'ai entendu ta prière, je me suis choisi ce lieu pour maison des sacrifices, dit Dieu. Et puis, eux-mêmes, ils choisissent les Lévites. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont choisis ou qui sont élus, et les lieux aussi sont choisis et sont élus. Tout ce qui tourne autour du culte est choisi, si je peux dire les choses comme ça. L'essentiel de ce que les livres des Chroniques racontent de David et Salomon, ça tourne autour de l'édification du temple, mais tout ce qui est associé au culte est choisi, élu, et donc les Lévites, eux aussi. On peut remarquer le jeu entre 1 Chronique 22, chapitre 22, verset 5, où il est écrit « David disait, mon fils Salomon est encore jeune et faible, et la maison à construire pour le Seigneur doit être renommée dans tous les pays pour sa grandeur et sa splendeur. Je ferai donc pour lui des préparatifs. » Donc ce verset-là, et 1 Chronique 29, 1, où il est écrit « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, » donc là, il y a l'action qui est introduite, « est faible et jeune, et l'œuvre est grande, car ce palais n'est pas destiné à un homme, mais au Seigneur Dieu. » Et donc, ça souligne la grandeur de la tâche à accomplir et la fragilité de Salomon. Vous avez entendu dans la deuxième occurrence, celle du chapitre 22, du chapitre 29, Salomon est choisi pour accomplir cette grande tâche, bien que David ait tout préparé à l'avance. Et Salomon, il va réussir précisément parce qu'il est choisi par Dieu pour ce faire. C'est ton fils Salomon qui bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi comme fils et moi je serai pour lui un père, est-il encore écrit. Ainsi fut réalisée toute l'œuvre de Salomon jusqu'au jour où fut fondée la maison du Seigneur, puis jusqu'à son achèvement quand fut terminée la maison du Seigneur. Voilà donc comment Salomon est celui qui a érigé le temple de Jérusalem et qui a pu le faire parce qu'il est choisi par Dieu. Une dernière chose, et puis j'arrête. Dans la conclusion de la prière de Salomon en faveur d'Israël, en 2 Chroniques 6, le texte est en fait beaucoup plus condensé que dans le premier livre des Rois au chapitre 8, où il y a une longue prière de Salomon. Bon, on enlève les mentions de l'Exode, et il y a à la place une citation du psaume 132. « Seigneur Dieu, ne repousse pas la face de ton consacré, souviens-toi des actes de piété de David, ton serviteur. » Et vous voyez, il n'est plus question de l'Exode, il est question de David, ton serviteur, et il est question de la liturgie sacerdotale, souviens-toi aussi de que tes prêtres, Seigneur Dieu, se revêtent de salut. Et donc, il y a tout un mémorial qui est fait des actes de piété accomplis par David. Donc, vous le voyez, qu'est-ce qui légitime David dans le livre des Chroniques? C'est le fait qu'il est celui qui a organisé le culte. C'est celui qui a organisé le culte. Il se caractérise donc par l'héritage cultuel qu'il lègue à son fils et par son fils à toutes les générations. Et le texte s'achève avec une notice très brève. David mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours et d'honneur. Fin de l'histoire. Le roi est mort. Voilà, merci bien.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.